Alors, finalement, si vous me demandiez pourquoi je collectionne des outils...
Mais on vous l'a pas demandé.
Ah, oh, je suis incorrigible, bavard.
Non, c'est ça.
Écoutez...
Qu'ils le disent.
Pour une fois, oui, elle.
Vraiment, c'est simplement pour les mots. Pour les mots qu'on a avec les gens. Pour les tonneliers qu'on rencontre. Pour le vieux maréchal Ferrand qui était à la guerre de 14 et qui disait, vous savez, monsieur... Nom de Dieu, c'était Paul Latarte quand il fallait ferrer ses chevaux, qu'un régiment de cavalerie, tous officiers, tous nobles, et alors tous la chasse à cour, etc. Il fallait que ça soit ferré aussi sec et tout et tout. Je peux aller n'importe où, je peux entrer dans une forge, je peux aller chez un sabotier, je peux entrer chez un bourrelier touareg. J'ai travaillé avec les chameliers qui traversaient le désert de Gobi avec les chameaux bactriens qui ont à peu près 3 mètres de haut et qui pèsent une tonne ou je sais pas quoi. Et ils m'ont montré leurs outils de bourreliers qui sont indispensables à leur vie et qui sont accrochés à leur cou autour d'une lanière. Parce qu'il ne s'agit pas de rigoler. Si un harnais craque, si vous n'avez pas de quoi coudre, la caravane est foutue et il fait moins 40. Et ça, c'est un langage universel. Les voisins de Bourgogne, de ma maison de campagne, viennent voir des outils, viennent voir des faucilles du Laos, ils viennent voir des herminettes des îles Fidji. Je crois que tous les moyens sont bons pour connaître les gens, pour aller au plus profond. On peut choisir ça, on pourrait choisir autre chose.
Le monde est comme une falaise. Bon, vous voulez faire une maison, il faudrait creuser la falaise. Qu'est-ce que fait l'homme ? Il découpe la falaise en un tas de petits cubes, comme des petits morceaux de sucre, et puis avec ces morceaux de sucre, il refait une falaise, mais qui est creuse, et dans laquelle il habite et où il fait une maison. De la même façon que votre boucher découpe le bœuf en quartiers, vous-même, vous découpez la tranche en petits dés, et vous arrivez à la manger. Et sans arrêt, les outils servent à la mise à disposition de l'utilisateur qu'est l'homme. Le monde est sans arrêt trop grand. Il faut gratter le monde, il faut creuser le monde, il faut découper le monde, il faut diviser le monde pour arriver à vivre. Je crois que les mains, nos mains, nous, qui ont été pendant 400 000 ans, sans arrêt, tenant quelque chose à la main, parce que sans rien à la main, on ne fait rien. Il faut avoir ou un bout de bois pour se défendre, ou un crochet pour accrocher un fruit et le dépendre, soit un galet qui permet de casser un coquillage, ou de décrocher, ou de tuer un crabe, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, si vous voulez, de ce vide dans les mains, parce que... Une espèce comme l'espèce humaine ne va pas d'un seul coup quitter des habitudes immémoriales. Je vais vous dire, mais c'est confidentiel, ne le répétez surtout pas.
Si j'étais
psychiatre, il y a un certain nombre de mes malades que je soignerais en leur prêtant un silex tailleur en disant « mettez-le dans votre poche et puis touchez-le de temps en temps ». Quand j'étais petit garçon, les outils étaient interdits aux petits garçons parce qu'on se coupe, on se tape sur les pieds, etc. Et je voyais que c'était un des chemins pour être un homme et ça m'est resté dans la tête. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à être curieux de livres, de bibliothèques, de savoir, j'ai voulu me renseigner sur les outils. Je suis allé au Conservatoire des Arts et Métiers, on m'a reçu à la bibliothèque. J'ai dit, est-ce que vous avez un dictionnaire des outils ? Les gens m'ont dit, mais monsieur, vous rêvez, enfin ça ne peut pas exister. Et là, je me suis aperçu, à mon grand effroi, que si quelqu'un me disait « je m'intéresse aux outils, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors je réponds « si c'est les outils préhistoriques, vous allez au musée de Saint-Germain-en-Laye. Si c'est les outils gallo-romains, il faut que vous alliez au musée de Cluny. Si c'est les outils des Égyptiens, vous allez au Louvre dans la section égyptienne. S'il s'agit des outils du 18e, il faut aller au Conservatoire des Arts et Métiers, où il y a des maquettes très belles, faites du temps, de Buffon, de machin, etc. Si vous vous intéressez aux outils du 19e, il faut aller au musée des arts et traditions populaires. Et si vous vous intéressez aux outils modernes, il faut aller chez un marchand d'outils. Et puis, si vous avez encore rien de tout ça, au musée de l'homme, vous avez les outils des Esquimaux, des Africains, etc. Et puis, si vous en manque encore quelques-uns, ben, vous venez chez Hubert Comte, où il y a un Capharnaüm, pas mal. Et là, vous voyez encore les outils qui restent d'Océanie d'ailleurs. Contrairement à beaucoup de savants et d'écrivains contemporains, français ou autres, je suis né tout nu, je ne savais rien des outils. Alors j'ai commencé, mon père m'a conduit chez un potier, et puis j'ai été voir le maréchal Ferrand avec lui. Quand je posais des questions, mon père ne se contentait pas de répondre, de me dire le potier tourne, et puis bon, on verra. On allait voir le potier, et j'essayais de comprendre comment la terre montait dans ses mains, comment elle s'écartait, mon père m'expliquait la force centrifuge, etc. On est revenu à la maison, arrosé de terre glaise tous les deux, ma mère nous a brossés en riant, et en disant « c'est la science qui rentre ». Après quelques années d'études, les outils m'ont repris. J'ai voulu, disons, les catégoriser, les régler. J'avais l'espoir utopique de faire un jour un livre des outils où on puisse les reconnaître par leur forme. J'ai caressé ce projet longtemps et puis un jour j'ai eu un arrêt entre deux fonctions et tout d'un coup il y avait 3 ans devant moi et là j'ai fait une thèse d'état à la Sorbonne sur les outils et j'étais obligé de régler tous mes comptes avec moi, de retrouver toutes mes fiches, tous mes trucs, tous mes notes, tous mes dessins, toutes mes collections d'outils et d'organiser ça suivant un certain nombre d'idées, de rapprochements, de choses qu'on n'avait pas trop faites.
On n'avait pas réfléchi sur les outils au point de trouver que les outils étaient un fabuleux fantôme qui est à côté de l'histoire de l'humanité. Autour de moi maintenant, des outils imaginaires, cette pièce en est remplie. Cette sculpture qui est au-dessus de vous, elle a été taillée dans un bois, c'est un bois fruitier d'Alsace. On a scié un arbre, on l'a battu avec une cognée, on a mis des coins pour le faire tomber, on avait une corde pour tirer l'arbre, cette corde a été faite avec d'autres outils, les outils du cordier, etc. Il n'y a pas une seule chose ici qui n'ait pas nécessité, si vous voulez, la présence d'une quinzaine, voire d'une cinquantaine d'outils passant par une chaîne et des relais humains. Alors, je trouvais dommage que ça n'ait jamais été dit et que nos contemporains ne pensent pas suffisamment à cet iceberg qui est englouti sous les objets, si vous voulez. Derrière chaque objet, il y a des travaux, des peines, le goût des hommes, le savoir-faire, l'adresse, etc.
En fait, les outils ne sont pas du tout disparus. C'est les gens qui le croient. Vous allez au sous-sol du bazar de l'hôtel de ville, il y a un entrepôt qui est de la taille d'un hangar d'aviation où des gens rêvent devant des harges, des herminettes, des poutres, des ci, des ça, et puis disent à leur femme « Mais Gisèle, on pourrait se bâtir une maison au fond de notre jardin, il suffit d'acheter la scie, on achète 3-4 poutres, des planches, des clous, des trucs et ça va. » Et les gens rêvent et le font, et il y a en France X millions de voitures dans la malle desquelles il y a une boîte à outils pour pouvoir dévisser un truc ou réparer, ou etc. Et il y a X maisons de campagne dans lesquelles il y a des outils élémentaires pour pouvoir dévisser la plomberie, planter un clou, faire ci, faire ça. Donc les outils, invisiblement, ont envahi notre société, mais souterrainement, si vous voulez, ça se voit pas. On ne voit pas de gens dans les rues avec une doloire sur l'épaule ou une scie de charpentier à la main. Mais en fait, tous les gens, femmes y compris, savent manier un certain nombre d'outils. Les outils se prolongent infiniment et de toute façon, c'est une corde de violoncelle extraordinaire, c'est une touche de piano merveilleuse. Dès que vous la touchez, les gens vibrent. Tout le monde. Tout le monde a... un outil dans le grenier, dans la cave, dans la poche, dans le cœur. les outils, sa vie. Je ne suis pas du tout un notaire de province qui fait un inventaire après décès. Les outils continuent. Alors, bon, ce n'est pas les mêmes. On n'a pas les silex taillés, mais pour aller dans l'espace, de temps en temps, il faut, avec une pince, réussir à relier deux câbles ou réussir à couper quelque chose. Espace. Un cargo automatique progresse, c'est-à-dire vide. Il n'y a personne à bord. Seulement un trésor à bord, vous allez voir lequel. A rejoint la station Mir mardi 17 mars. Il apporte notamment des outils qui devraient permettre le déblocage de la porte du module Quant 2. Le 3 mars, les deux cosmonautes russes avaient cassé toutes les clés en leur possession en tentant d'ouvrir ce sas, le seul qui leur donne accès à l'extérieur. L'équipage doit réparer d'urgence un panneau solaire endommagé qui, selon les autorités spatiales russes, risque à tout moment de se briser, d'endommager gravement la coque de Mir. On retrouve les plus anciennes légendes, on rejoint l'Odyssée avec Ulysse qui a besoin d'outils pour crever l'œil du cyclope et se libérer de la grotte où il va être dévoré à la suite de ses compagnons. On voit Ulysse refabriquer des bateaux avec sa Deloire et sa hache, et on voit le merveilleux livre de Robinson où tout s'arrête magiquement dans l'île déserte où le pauvre Robinson Crusoe est tombé, puisqu'il découvre à bord du bateau naufragé le coffre du charpentier dans lequel il y a des scies, des haches, tout est réglé. Profitant de ce que mon épouse ne m'entend pas, je vous dis que le prochain type qui sera à bord d'une capsule spatiale avec une caisse à outils, ça sera moi. Et que j'aurai ces outils gallo-romains, préhistoriques, enfin, tout un arsenal de choses qui peuvent être utiles, qui sont biscornues, mais qui sont pas mal. J'avais 9 ans. Mon professeur d'histoire nous a montré un silex préhistorique. Il l'a fait passer dans la classe. Je n'en ai pas cru mes yeux. J'ai cru que je voyais de l'or, du platine, des diamants. J'étais émerveillé, j'étais jaloux, j'étais fou. Alors mon père m'a dit, je connais un vigneron à Saint-Jean-de-Vaux qui m'a dit qu'en labourant, il trouvait du silex. Alors je suis revenu avec 3 kilos de silex. Et j'ai montré ça fièrement à mon père. Mon père était assez sceptique du point de vue de la préhistoire ou de certaines choses de la préhistoire. Il avait quelques bonnes raisons. Alors il m'a dit, le mieux, ce serait d'aller voir l'abbé Gaillard. Alors l'abbé Gaillard a trié mes 3 kilos de silex et en a gardé 6. Et le reste, il a foutu directement dans sa poubelle. Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit, tu vois, voilà comment on sait ce que c'est qu'un silex. On essaye avec ses mains, même en fermant les yeux. Et tu mets ton index à tel endroit, tu mets ton pouce à tel endroit et tu vois que ça fait une lame. Tu vois que ça fait un grattoir, tu vois que ça fait un perçon. Et là, émerveillé, j'ai découvert que entre les hommes préhistoriques et moi, il n'y avait aucune distance. Alors depuis, je poursuis sauvagement cet évangile et quand des gens me disent « Ah oui, les grottes de Lascaux, etc. » Je dis « Vous savez, celui qui a dessiné les grottes de Lascaux, c'est le même que Michel-Ange. » C'est la même main, c'est le même homme, c'est la même intelligence, c'est les mêmes forces, c'est les mêmes leviers, c'est les mêmes formes d'outils qui sont prêtes d'avance pour effectuer une certaine fonction et qui doivent avoir telle solidité, telle longueur et avoir ce fameux rapport qui fait l'outil merveilleux, c'est-à-dire suffisamment de poids pour être efficace, pas trop de poids pour être transportable, suffisamment d'acier pour être solide, mais pas trop pour pas mordre, etc.
Si on regarde attentivement, avec le souvenir que le marbre est pas sorti tout seul à la montagne, qu'il a été taillé, et que les outils qui servent à tailler le marbre vont des outils du carrier aux outils du ciseleur, dans le sens de l'histoire d'une statue, si vous voulez, pour la dégager complètement. La statue est à l'intérieur et on veut la dégager. Michel-Ange a fait exprès de nous laisser sur les deux esclaves, à certains endroits, la trace, l'histoire de chacun des outils. On voit, si vous voulez, d'abord le très fort ciseau, la pointe, qui laisse des reliefs montagneux, etc. Vous avez les systèmes de détachement des masses, avec le trépan. Michel-Ange perce une série de trous qui se relient ensuite et qui découpent, si vous voulez, comme exactement comme le papier perforé se découpe. Ensuite, il y a la gradine, il y a plusieurs dents, et il y a les outils de plus en plus fins. Et si vous regardez le talon, par exemple, de l'esclave endormi, vous voyez qu'il est épluché, vraiment, comme on épluche avec un couteau, on voit les traces d'un outil avec un trait continu, régulier, qui enlève des couches. Et là, ça n'a pas été poli, c'est laissé comme ça. Michel-Ange a gardé encore sa liberté.
L'outil semble un objet matériel, en fait, il est une projection d'une action imaginaire. Vous avez besoin de faire quelque chose et vous inventez la chose qui va vous permettre d'opérer cette action. Ces actions se réduisent à 5, 6, 10 élémentaires. Écraser, couper, fendre, frapper, gratter, racler. Alors, on sent ce besoin-là et puis le hasard de la nature, et le hasard va très très vite. Entre le canif que j'ai dans ma poche, qui est pliant, qui vient d'Albacete, d'Espagne, et la petite feuille de laurier que j'ai achetée en Afghanistan il y a 20 ans, qui est un couteau, mais qui est en même temps un grattoir si on l'utilise sur le côté, et qui est en même temps un perçoir si on l'utilise frontalement, puisqu'il est en forme de pointe, il y a seulement 3 objets. Il y a 20 000 ans, 15 000 ans, mais il y a 3 objets. Alors, qu'on me dise pas que c'est loin, etc., c'est pas loin du tout. Quand vous avez le silex, vous avez le silex. Et puis, le jour où vous découvrez le métal, sans doute par hasard, le bronze, le ci, le ça, vous faites un objet qui s'aiguise, qui est différent. Et puis, en troisième lieu, vous inventez la virole, la charnière, et vous avez le couteau pliant que j'ai dans ma poche. Mais mon couteau, il est à 3 coups de l'invention du silex taillé.